Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Ce matin, nous recevons Catherine Cambellec. Bonjour Catherine.
Bonjour Michel.
Et Thierry Châtel. Bonjour Thierry.
Bonjour Michel.
Alors Catherine, vous écrivez beaucoup et vous écrivez pour les enfants, pour la jeunesse. Pourriez-vous nous préciser un peu le contenu de vos ouvrages ?
Alors j'écris pour la jeunesse, mais je rappelle quand même que j'écris aussi parfois pour les adultes. Pour les jeunes, je vais de 0 à 14 ans. Il y a des albums avec des petites leçons de vie. Il y a des romans. Alors des romans pour les adolescents qui sont adaptés, qui sont en deux versions. Une version adaptée pour les jeunes qui auraient des problèmes de dyslexie ou dyspraxie spatio-visuelle. Et puis des versions traditionnelles. Et le livre, par exemple, dont nous allons parler ce matin, est un roman historique, première lecture à partir de 7 ans. Voilà, en gros, on va faire court comme ça, parce qu'il y a beaucoup à dire sur chaque livre.
Mais d'autres livres, vous avez des publications faites chez des éditeurs reconnus nationalement. Et ça, c'est aussi un témoignage de la qualité du travail que vous faites et puis des ouvrages que vous vendez.
Alors effectivement, j'ai une certaine reconnaissance, on va dire ça comme ça, chez Bayard. J'ai publié chez Bayard, jeunesse. En pédagogie, je publie chez Martin Média, dans la classe. On a parlé tout à l'heure des ouvrages adaptés pour les dyslexiques et dyspraxiques spatio-visuels chez La Plume de l'Argilette, envers tout ce qui est littérature adaptée. Voilà.
Et pour les auditeurs quand même, la littérature adaptée, les dyslexies, on connaît un peu, mais après, vous avez donné un terme un peu composé, ce serait peut-être bien de l'expliciter pour...
Dyspraxique spatio-visuel.
Oui.
Bon, ce sont des jeunes qui ont des problèmes de repérage dans l'espace, entre autres. Et c'est pour ça que le livre, d'ailleurs, n'est pas justifié. Et quand on ouvre une page de livre destinée à ces jeunes-là, beaucoup de personnes sont perdues parce que on va à la ligne. Ça n'est même pas aléatoire. C'est une mise en page qui est faite ligne par ligne pour que les groupes nominaux, les groupes verbaux ne soient pas coupés pour faciliter la fluidité de la compréhension. Mais surtout, on ne justifie pas à droite pour que le jeune puisse se repérer dans la page.
On sent l'écrivaine, mais aussi la pédagogue.
Ça laisse des traces, un certain nombre d'années dans l'enseignement, dont une classe unique, qui est pour beaucoup d'ailleurs dans Les Sabots des Tiennettes.
La classe unique, beaucoup de vertus, même si on les a un peu délaissées, oubliées ou laissées de côté.
Bon, on les a laissées de côté parce que les écoles de campagne ferment, pour une question d'économie en général. Mais c'était formidable. Moi, j'avais de la grande section au CM2. Et ce sont les plus belles années de ma carrière. Parce qu'on pouvait donner aux enfants une pédagogie vraiment différenciée. Moi, je me souviens d'avoir... j'avais 6 niveaux, mais j'avais jusqu'à 11. Et une année, j'ai eu 15 niveaux différents. Et ça ne me gênait pas du tout d'avoir cette pédagogie complètement différenciée. On pouvait raccourcir des cycles pour certains jeunes, les allonger pour d'autres à certains moments de la scolarité et rattraper ensuite. Enfin, c'était formidable parce que c'était une scolarité complètement adaptée à l'enfant.
Et puis les petits apprennent des grands, et peut-être réciproquement.
Tout à fait. Et alors, je n'avais pas de problème de discipline pour la simple raison, c'est que les enfants arrivaient généralement en grande section, ils connaissaient ma façon de faire. Et en début d'année, mais le premier jour, on attaquait le programme, parce qu'il n'y avait pas de mise au point à faire. Ils savaient, ils connaissaient mes attentes, et on avançait, c'était formidable.
Et probablement heureux de venir à l'école.
Oui, alors j'ai retrouvé deux élèves qui sont venus sur un salon il y a quelques années, qui m'ont fait la surprise de venir me voir et qui m'ont dit, avec vous, Madame Cambellec, c'était l'école du bonheur.
Eh oui.
Je crois que c'était ma plus belle récompense.
Et effectivement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, les livres, vous avez dit pour les enfants, pédagogue, écrivaine. Écrivaine aussi pour les adultes, avez-vous dit ?
Oui, alors avec Ma tasse de thé et autres petits repos, qui est un ouvrage contre toute attente, puisque effectivement je suis auteur jeunesse, a eu une belle audience auprès des adultes. Je crois même pouvoir dire que c'est le livre que j'ai le plus signé.
Mais avec un titre comme ça, c'est pas étonnant.
C'est toute la sérénité de ma littérature, en fait. J'aime beaucoup être dans la paix, dans le calme, Je dis aux gens, si vous aimez les thrillers, surtout, faut aller plus loin, parce que je ne fais pas.
Et encore, vous êtes gentil en citant les thrillers. Vous ne citez pas la suite.
Non.
Le noir. Et alors... comme disait Coluche, plus blanc que blanc.
Oui, ben il y en a qui font plus noir que noir.
Justement, j'allais dire ça, ceux qui font plus noir que noir. Et je profite pour dire un mot là-dessus. On écrit, bien sûr, c'est écrit dans un livre. Alors on peut dire c'est de la fiction, mais il n'empêche que l'écrivain est derrière cette fiction et que c'est bien dans sa tête qu'est née la fiction et que le côté noir. Hyper noir, si on peut dire, c'est bien né dans son cerveau. Et c'est lui qui pense comme ça. Et c'est plus que personnel. On a un peu l'impression quand même que on a un engagement par rapport à nos lecteurs, par rapport à la société.
Complètement.
Et le côté sérénité, il y a encore heureusement des gens sereins.
Oui, et franchement, je n'arrive pas à rentrer dans ces fameux livres noirs et compagnie ou cette littérature jeunesse autour des vampires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, une magie un peu particulière, hein, où le jeune a tout pouvoir sur ses contemporains, y compris pouvoir de vie et de mort.
Oui.
Ça me laisse pensive quant aux influences que ça peut avoir.
Je pense que ça peut avoir de l'influence. Et ça en a certainement. Mais on est dans un monde de violence. Ce qui fait que nos collègues, parfois, se disent « moi, je vends beaucoup ben, ». Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière le « beaucoup hein, », parce que des fois, on augmente un peu la dose. Mais quoi qu'il en soit, ça voudrait dire que la société est devenue violente. Et ça, c'est un fait, la violence, ouais. Alors, la tasse de thé, quelques éléments.
Des récits ou des nouvelles complètement fictifs. Je tiens à dire que les intrigues, ce sont des intrigues, hein. C'est complètement fictif, avec des chutes, me dit-on souvent, inattendues, mais qui plaisent beaucoup. Par contre, c'est ancré dans le réel, c'est-à-dire que tous les lieux où j'emmène mes lecteurs seront des lieux où j'ai travaillé généralement, quel que soit le continent, sur 3 continents, et que j'ai aimé et où j'ai fait naître ces intrigues. Voilà. Donc les personnes me disent, elles reviennent à ma table en me disant « c'est magique ». Elles le gardent sur leur table de chevet ou leur table de salon et le relisent régulièrement.
Et elles admettent ? Le bonheur, parce que ça aussi c'est quelque chose. Admettre qu'on est heureux, c'est assez difficile, presque à vivre aujourd'hui. Bien sûr, il faut continuer, mais quand on dit à quelqu'un, bah oui, ben je manque de rien, on a tendance à penser l'interlocuteur, oh ben celui-là ne dit pas tout, hein, il doit être comme tout le monde, il doit avoir un problème quelque part.
On a des difficultés, bien sûr, comme tout le monde, mais des difficultés, je pense que notre état d'esprit, justement, cet état d'esprit de sérénité, de paix, permet de surmonter ces difficultés d'une certaine façon et de nous maintenir la tête un petit peu à flot de ce bonheur.
La tasse de thé de Catherine Cambellec, ne passez pas à côté, un incontournable pour contribuer à votre bonheur. Les livres jeunesse, maintenant, Catherine, sur quelle thématique travaillez-vous ?
tout ce qui me vient à l'esprit quand j'observe, je vois des enfants sur une cour de récréation ou jouer entre eux ou réagir dans une fratrie. Donc il y a toujours un petit thème avec une petite leçon de vie. Bon, par exemple, moi je suis le plus fort. On se doute bien du thème. Tout petit poussin jaune ne veut pas dormir, on se doute aussi du thème. Ce sont vraiment des petites situations auxquelles les enfants sont confrontés. Alors après, Les sabots d'Étiennette, là, c'est vraiment le roman, c'est une histoire à part. Ce n'est pas une leçon de vie.
Et vous nous en parlerez tout à l'heure, beaucoup plus en détail. Alors, les cours de récréation, il se passe plein de choses.
Il se passe plein de choses, plein de jolies choses, grâce à la solidarité de certains enfants, en particulier dans les petites écoles à classe unique, parce que là, la solidarité, elle était vraiment manifeste. Dans ces écoles-là, honnêtement, je n'ai pas vu tant que ça de violence, à part une petite fille qui était violente, en particulier avec les adultes. Mais bon, sa situation était particulière. Mais dans les grosses écoles, avec différentes classes, différents niveaux, il y a confrontation entre les enfants. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une mentalité de violence qui s'est développée grâce ou à cause, je ne sais pas, des médias, de la littérature, de différentes choses, d'une éducation différente peut-être de celle que nous avons reçue. Et ces cours de récréation, eh bien, me donnent matière à écrire ce que j'écris.
Et les cours de récréation, qu'elles vivent longtemps. Et je pense là aux communes rurales, lorsque les écoles manque parfois d'élèves, arrive à fermer. Et je trouve que les gens qui habitent dans ces communes, dans les bourgs notamment, il manque quelque chose lorsqu'il y a la sonnerie. Et puis, on n'entend plus les cris des enfants. Des enfants, c'est ce qu'il y a de
c'est
plus
la vie.
Merveilleux. C'est la vie. C'est la vie. Eh bien, vous serez le samedi prochain, donc le 25 septembre à l'Okirec, Thierry Châtel sera aussi, et vous, bien sûr, vous présenterez tous ces livres dont vous nous avez parlé. Et maintenant, on va évoquer un peu plus les sabots d'Étiennette, un livre tout récent, tout nouveau, et qui est repris peut-être alors.
Non, il n'est pas tout nouveau. Il a été publié en 2016.
Cinq ans, c'est encore nouveau. En tout cas, on ne parle que de lui maintenant dans le grand monde. Donc, il est forcément nouveau dans la tête des gens. Et puis, il a une vie, oui. Une vie particulière. Alors, quel est d'abord son contenu ?
Le contenu, alors, c'est un roman, c'est l'amitié entre le fils de l'instituteur et une petite fille de l'école, une amitié qui va évoluer dans le temps grâce aux sabots cassés de la petite fille. Et il y a, en même temps que le grand-père raconte l'histoire à son petit-fils, une contextualisation des premières lois autour de l'école. Et du coup, les petits, quand ils lisent ce livre, découvrent que l'école, ça n'a pas toujours existé. Alors la première réaction, il devait s'ennuyer quand il n'allait pas à l'école, mais je pense bien. Alors les petits, ils découvrent un autre mode de vie. Et c'est pour ça que les enseignants, ça par contre je le sais, les enseignants, beaucoup d'enseignants l'utilisent en classe quand ils font au cycle 2 l'école d'autrefois et au cycle 3 l'école de Jules Ferry, comme support, ils l'utilisent comme support. Et les musées, certains musées de l'école en Bretagne l'ont. Alors je pense au musée de l'école de Botoa et celui de Trégarvan. Ils le proposent à leur public.
Trégarvan est dans le Finistère. Botoa est dans les Côtes d'Armor, en Haute-Cornouaille précisément. Je précise que Botoa était l'ancien chef-lieu de canton de Saint-Nicolas-du-Pelem,
ouais.
Et qu'il dépendait de l'évêché de Quimper, donc Saint-Corentin, d'où le nom de Kernuel de Haute-Cornouaille. Et d'ailleurs, en 1800, le curé de Botoas était appelé le deuxième évêque de Cornouaille. C'est dire sa puissance, même si aujourd'hui il y a moins de monde. Et en tout cas, je vous invite à visiter l'école de Botoas. C'est une école authentique parce qu'elle fonctionnait encore quelques années avant la construction du musée. Le logement de l'institutrice est resté meublé tel qu'il était. Et l'école, par ailleurs, a un maître, une maîtresse. La blouse grise et le bâton sont présents. Et on peut même parfois passer son certificat d'études, être diplômé de Botoas, un certificat d'études en bonne et due forme. Alors, c'est à Botoas, c'est à Trégarvan, c'est dans les musées de l'école, et c'est dans la tête des gens aussi, votre histoire.
Oui, j'ai des grands-parents qui se l'offrent, parce qu'ils ont connu cette école-là, et puis d'autres personnes qui l'offrent à leurs parents parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire plaisir. Et juste un petit mot sur les illustrations de Rachel Sundman, qui sont magnifiques. On en parlera peut-être à l'Okirek le 25. Vraiment, j'aimerais que l'on passe un petit moment sur les illustrations avec Thierry. On en a parlé en préparant l'émission et il y aura matière à dire.
Le 25, samedi prochain, vous pourrez bien sûr retrouver Catherine Cambellec, vous pourrez retrouver aussi Thierry Châtel, et on leur a réservé un temps pour qu'ils parlent tous les deux de cet ouvrage. Une vie nouvelle un peu avec une traduction en breton, Thierry Châtel, qui êtes-vous ?
En fait, je suis passionné aussi par, par l'éducation, puisque j'ai été enseignant. Donc, tout ce qu'a dit Catherine, je l'ai vécu presque, enfin, pas tout à fait. J'ai jamais eu de classe avec tous les cours, mais j'avais la moitié. Donc, je vois. C'était très passionnant. Et ce qui est marrant, c'est que cette année, en fait, on me renvoie un petit peu à mon passé d'enseignant, puisque les éditions du Petit Pavé m'ont demandé d'écrire des contes et légendes de Chine. Donc c'est paru cette année, je les ai illustrés. Et la Gorsesse des Druides m'a demandé aussi de raconter le parcours d'Ernest Le Barzic, qui était enseignant en école libre alors que j'étais en école publique. Voilà, donc, et puis après, Catherine me propose de traduire ce livre qui reflète le bonheur des écoles d'autrefois. Voilà, donc j'ai accepté avec plaisir parce que je retrouve aussi mon école d'autrefois.
Traduire en breton. Il faut aimer le livre.
Tout à fait.
Il faut les connaissances nécessaires pour la traduction. Et on va avoir l'occasion de préciser que la traduction, ce n'est pas le mot à mot. Comment avez-vous procédé pour cette traduction ? De haut niveau, je précise.
Ouais, c'était au départ, je me suis dit, c'est un défi. Parce que quand j'ai lu le livre, bon, j'ai remarqué les grandes qualités du livre. Donc, c'est écrit souvent avec poésie. C'est précis, il y a de l'émotion, donc il fallait essayer de remettre tout ça dans la traduction. Donc en fait, au début, je voyais bien que ce n'était pas mon ouvrage, puis j'ai essayé de me plonger dans ce livre comme si j'étais en train de l'écrire moi-même, c'est-à-dire que j'essayais de revivre les aventures de manière à me retrouver avec les personnages dans la tête. Et à partir du moment où j'ai réussi à mettre les personnages dans ma tête, à voir Étiennette, à la voir vivre, bien sûr, je n'inventais pas ce qui allait lui arriver, mais j'étais en situation et les personnages pouvaient parler. Donc j'ai travaillé seul, comme je fais toujours. Alors, je ne dirais pas que j'écris un peu comme si c'était... Parce que j'écris des livres de magie, hein, donc c'est vrai que quand j'écris, je trouve que ce n'est pas difficile parce que c'est comme la magie. À partir du moment où je suis habité par les personnages, alors que ici, ce ne sont pas mes personnages, mais bon, là, je retrouve le bonheur d'écrire. Voilà. Donc, ce qui m'a servi aussi, c'est que lorsque j'étais enseignant bilingue à Plounévé-Modec, breton français, tous les jours, je faisais des traductions. Ça, je l'ai compris en faisant cette traduction-là. Puisque avant de faire une leçon en mathématiques ou en géographie ou en histoire, je devais traduire. Donc là, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Alors, parfois, c'était naturel et parfois, c'était difficile. Je peux parler aussi des difficultés.
Alors, la traduction, parfois, lorsqu'on est non initié, on dit ben, il suffit de connaître le breton et puis on peut traduire. Et effectivement, on peut traduire. On peut traduire les mots. On peut traduire même quelques phrases courtes. Mais on ne traduit pas l'esprit d'un texte, le contenu d'un texte. Autrement dit, on ne fait pas une traduction réelle. Et je sais que vous avez repris les mots, repris les termes, repris les expressions. En breton, on met beaucoup de métaphores, on tourne un peu, on a une expression particulière. C'est ce qui fait le charme de la langue. Et ça, Thierry Châtel, vous la possédez parfaitement. Je rappelle que vous êtes docteur en études celtiques. Autrement dit, pas seulement la langue, mais aussi vous connaissez le reste. Et alors, comment vous avez fait pour être au plus près de l'esprit de ce texte ?
Alors, au départ, j'ai essayé de faire une traduction qu'on pourrait dire dialectale. Donc, je me suis plongé dans l'atlas linguistique de Pierre Leroux pour essayer de retrouver tous les termes locaux du parler, de Saint-Servais, en fait, ce secteur-là. Donc, j'ai essayé. Puis après, je me suis dit non, il faut que j'écrive un livre que les enfants qui vont aux écoles, que ce soit bilingue ou diwan, puissent lire avec plaisir. C'est retrouver le breton qui est courant dans les écoles. Donc, j'ai écrit quelque chose qui est plutôt littéraire, on va dire, mais au niveau des écoles, quoi, pour les écoles, quoi, voilà.
Et je me suis laissé dire, information off, comme on dit en radio, que vous l'avez fait lire à des enfants déjà et soumis aussi pratiquement à des enseignants de breton et qui ont fort apprécié.
Je passe la parole à Catherine, je crois que c'est elle qui a fait cela.
Oui, je l'ai soumis, j'ai soumis la traduction à une collègue qui est enseignante de breton en maternelle, avec une classe entièrement en immersion, qui est bretonnante. Ses parents étaient bretons et bretonnants. Et lorsqu'elle a lu les premières pages de la traduction à Thierry, elle m'a dit « Oh, c'est formidable, je comprends tout ». Et elle m'a expliqué, je pense que j'expliquerai plus en profondeur pourquoi. Habituellement, les traductions ne sont pas lisibles par les bretons. Et elle était enchantée. D'ailleurs, elle a mis une option sur le livre avant qu'il ne soit sorti, puisque sa sortie officielle sera le 25 à Loukirec.
Sortie officielle le 25 à Loukirec. Les sabots d'Estienette, édition
à Mont-Comté.
À Mont-Comté. Et tout ça à Loukirec. Mais déjà, je le dis aux enseignants qui nous écoutent, bilingues, mais aussi en breton. Pensez, Catherine Cambellec et Thierry Châtel, lorsque vous allez faire vos achats de livres pour l'année. Et bien sûr, on compte sur vous pour venir à Loukirec, parce que là, vous verrez les personnages en chair et en os. Et tant que vous serez là-bas, vous pourrez aussi faire la dictée à 11h le matin, la dictée de Patricia. Ne la manquez pas. Vous pourrez aussi participer à un café littéraire géant, enfin un peu exceptionnel, avec Josette Bouvet-Lemeur. Vous aurez également des histoires en breton, à un moment donné. Vous aurez aussi Evelyne Brizou-Pellen, qui écrit pour la jeunesse. Des activités, en fait, toute la journée. Le principe étant que on ne s'ennuiera pas, on ne trouvera pas le temps long. En attendant le résultat de la dictée, elle est un peu coton, mais c'est normal, c'est une dictée de concours. Et puis on fera ensuite la remise des prix d'un concours de nouvelles, 44 participants, avec pour sujet « Par la fenêtre ». Et beaucoup de gens ont été inspirés, justement, par la fenêtre. Les lauréats seront aussi là-bas. Alors, on approche de la fin de l'émission. Je voulais attirer votre attention là-dessus, chers auditeurs. La qualité du livre et la qualité de la traduction, ça fait assurément un livre de rentrée, un livre de rentrée qu'il ne faut pas manquer. Son titre en breton ?
Botoukouat Étienette.
Boutouquat et Tchenet, c'est tout à fait breton. Les sabots de bois des Tchenet, Boutouquat. Un petit mot à ajouter, peut-être
Ouais, en fait, par rapport à la traduction, je peux dire aussi, je me suis rendu compte que la langue bretonne est une langue riche. Pour un seul mot que j'allais traduire, j'avais beaucoup de possibilités, que ce soit dans tous les dialectes ou même en breton littéraire. Et donc, ça m'a permis d'éviter des répétitions que j'aurais pu faire. Et je voulais dire aussi que souvent, j'ai reconstruit la phrase afin de garder, enfin de retrouver la grammaire authentique du breton. Voilà.
Merci, Catherine.
Eh bien, je voulais remercier Thierry Châtel pour sa traduction et pour la minutie et le sérieux de son travail. C'était formidable pour moi de découvrir son cheminement dans cette traduction et la quantité de travail également. Un grand merci Thierry.
Merci de m'avoir proposé cette traduction.
Et merci au nom de la radio d'être venus tous les deux. Ce matin pour parler aux auditeurs de ce livre « Les sabots d'Etienette » et « Boutouquat Etienette » en breton. C'était un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Catherine Cambellec et Thierry Châtel.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.